Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous. La cérémonie parisienne du centenaire de la fin de la Grande Guerre vient de se terminer, place de l'Étoile. Près de 70 chefs d'État ont écouté le discours du président de la République française. Discours empreint de gravité. Nous rejoindrons tout à l'heure à l'Arc de Triomphe Nathalie Hernandez. Des combats de rue dans un quartier de l'Est de Daïda, la ville portuaire yéménite que tentent de reprendre Houthis les troupes pro-gouvernementales. Les feux en Californie, Grégory Phillips a approché la ville dévastée de Paradise. Une vingtaine de morts d'ores et déjà recensé. Au sommaire de la face cachée du globe, la crise politique au Sri Lanka et les déboires de l'ancien président équatorien Rafael Correa. Le clairon a joué la sonnerie du cessez-le-feu à l'Étoile le 11 novembre 1918 à 10h55. Les 13 notes du cessez-le-feu ont résonné sur les bords de la Meuse au clairon du soldat Octave Deluc à l'effectif du 415e régiment d'infanterie. L'armistice, 34 articles, avait été signé à 5h20 à Retonde. À Paris, ce matin, il y eut la sarabande de la suite numéro 5 pour violoncelle en do mineur de Jean-Sébastien Bach et la voix cristalline de la chanteuse béninoise Kidjo, en hommage aux troupes coloniales. Bleu-oui. Bleu-oui. Je vous propose sans tarder un extrait du discours du président de la République, Emmanuel Macron.
10 millions de morts, 6 millions de blessés et mutilés, 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins, des millions de victimes civiles, 1 milliard d'obus tirés sur le seul sol de France. Le monde découvrit l'ampleur de blessures que l'ardeur combattante avait occultées. Aux larmes des mourants succédèrent celles des survivants. Car sur ce sol de France, le monde entier était venu combattre.
Pour prendre connaissance des temps forts de cette cérémonie, nous retrouvons comme convenu en direct de l'Arc de Triomphe Nathalie Hernandez. Bonjour Nathalie.
Bonjour. Comment alors c'est... effectivement, oui. ce discours d'Emmanuel Macron est un des temps forts. Hein, ce discours dans lequel il associe tout le monde, tous ceux qui ont combattu, toutes les classes sociales ici en France. Et puis il dit aussi de ne pas oublier ceux qui ont été défaits, les vaincus. Tout le monde a souffert après 14-18. Tout le monde a essayé ensuite de construire une Europe, des Nations Unies. Et puis il y a eu à nouveau la montée de nationalisme qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. Et le président de la République fait remarquer qu'il ne faut pas oublier que même si c'était il y a 100 ans, eh bien tout ça est encore très vivace aujourd'hui et que cette montée du nationalisme, eh bien on la voit aujourd'hui. Aujourd'hui en Europe, qu'il y a aussi la montée de l'obscurantisme et que face à tout ça, il faut être unis, il faut défendre l'Europe, il faut défendre les Nations Unies sans relâche et qu'il faut continuer de construire la paix entre les États, de saluer l'amitié entre les peuples. Les autres moments forts, bien sûr, sont aussi ces 8 lycéens qui ont lu des lettres de soldats américains, allemands, de travailleurs chinois, de soldats britanniques et qui ont ensuite accompagné le chef de l'État sous l'Arc de Triomphe, la main sur l'épaule. C'était vraiment une chaîne humaine pour raviver la flamme du soldat inconnu. Ce sont vraiment des moments forts avec tous ces chefs d'État qui sont arrivés ensemble, qui sont descendus une centaine de mètres avant pour parcourir à pied pour aller jusqu'à l'Arc de Triomphe et qui sont en train de se rassembler en ce moment. Ils vont partir maintenant pour déjeuner à Versailles. À Versailles, où a été signé l'un des principaux traités, le traité de Versailles, en juin 1929.
Merci à vous, Nathalie Hernandez, accompagnée de Georges Thau à l'Arc de Triomphe. Effectivement, cet après-midi, après ce déjeuner à Versailles, aura lieu le Forum de Paris sur la paix, un plaidoyer à la française pour le multilatéralisme, socle idéologique des relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que s'emploie à effriter le président américain. Donald Trump, d'ailleurs, ne participera pas à ce forum. Le processus de paix dans l'est de l'Ukraine est au point mort et en ce 11 novembre 2018, des élections en territoire séparatiste russe viennent nous rappeler que chaque semaine, des combats endeuillent les populations du Donbass. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, dénonce des scrutins illégaux et illégitimes. Plus de 400 morts à Hodeïda au Yémen. Depuis le 1er novembre, la ville portuaire est assiégée. Les forces pro-gouvernementales soutenues par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis tentent de déloger les rebelles des Houthis venus du nord. Bonjour Pierre-François Plessis.
Bonjour.
Pierre-François, premier combat de rue ce matin dans un quartier résidentiel de l'est de la ville.
Effectivement, les combats ont pris une autre forme dans les dernières 24 heures et cette guérilla a déjà fait au moins 61 morts, 43 du côté des rebelles et 18 du côté des loyalistes. Et c'est qu'un bilan partiel, le gros des combats se déroule depuis aujourd'hui dans le quartier résidentiel. Les Houthis ont posté des snipers à des endroits stratégiques, ils se sont installés sur les toits, derrière des panneaux publicitaires et ralentissent la progression des ennemis. Cette progression est d'autant plus compliquée que les rebelles ont aussi posé des mines et creusé des tranchées un peu partout dans la ville. Les affrontements menacent des centaines de milliers de civils pris au piège depuis le début des combats par des tirs d'obus et par les bombardements. Le port d'Hodeïda est situé sur les bords de la mer Rouge et y représente un point stratégique dans le conflit. Comme c'est le cas de Sanaa, la capitale du pays, la ville est aux mains des rebelles. Mais elle est aussi le point d'entrée des trois quarts des importations du pays et de l'aide humanitaire internationale. Elle est donc vitale pour la population yéménite dans ce que l'ONU appelle la pire crise humanitaire au monde. En effet, 14 millions de gens y sont au bord de la famine. Et la semaine dernière, l'UNICEF a appelé le Yémen un enfer sur terre.
Merci à vous, Pierre-François. Aux États-Unis, les incendies qui depuis jeudi matin ravagent la Californie sont sans précédent. 9 foyers du nord au sud de l'État et déjà une vingtaine de morts recensés. La ville la plus touchée se trouve dans le nord de la Californie. Paradise, 26 000 habitants, a été quasi entièrement ravagée par les flammes. Sur place, les autorités recensent déjà une vingtaine de morts, des habitants pris au piège par le feu. À Paradise, le reportage de Grégory Phillips.
Dans leurs vêtements encore recouverts par la suie, ils racontent tous, encore abasourdis, combien le feu a été rapide jeudi matin.
On a eu moins d'une heure pour s'enfuir.
Don, 70 ans, qui a toujours vécu à Paradise, a réussi à prendre la fuite en roulant à travers les flammes.
Quand on est descendu de la colline, il y avait des flammes tout autour de la voiture, le feu sautait par-dessus le toit. On était la dernière voiture à passer. Nous, on a eu de la chance.
Malcolm, lui, décrit un feu plus rapide qu'une tempête de sable et sa ville de Paradise transformée en enfer.
C'était comme s'il était minuit, mais à 9h30 du matin. Il faisait complètement noir, il pleuvait du feu. J'ai dit à ma fille, enceinte de 6 mois, « Prends ta voiture si tu veux. J'ai aussi un frère qui est sourd. Je leur ai dit à tous les deux, « Faites exactement ce que je fais. Vous me suivez et je vais vous sortir de là. » J'ai vu des gens sortir en courant de leur véhicule, en panique, et se mettre à courir sur la route. Il y aura beaucoup plus de victimes. Vous savez, c'était un cataclysme.
Les deux voisins ont tout perdu. Don a vu sa maison partir en flammes en seulement quelques minutes. Malcolm sait que sa résidence est détruite, comme quasiment tous les bâtiments de Paradise. Il attend le lever du jour pour aller voir les dégâts.
Grégory Phillips, même si les prix de l'essence se crispent en France, celui du baril chute près de 20% en moins en un mois. À titre d'exemple, le baril new-yorkais passait sous la barre des 60 dollars. Cette situation commence à inquiéter les géants du pétrole. Bonjour Lucas Caltritti.
Bonjour.
Lucas, ils se réunissent aujourd'hui à Abu Dhabi pour justement envisager de limiter leur production.
Et oui, car diminuer la production de pétrole permettrait logiquement de faire remonter son prix. L'objectif pour les géants du pétrole est d'éviter un effondrement des cours comme il y a 4 ans. Toutefois, pas d'annonce chiffrée à Abu Dhabi aujourd'hui sur une diminution de la production. Mais pour le ministre du pétrole d'Oman, beaucoup de nations présentes à la réunion y sont favorables. Ne manque plus qu'un consensus. Des pistes sont déjà évoquées comme un retour à des limitations qui pourraient être instaurées. D'autant que depuis 2 ans, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, appliquaient un accord de la réduction de la production de l'or noir, mais toute la nuance est dans la conjugaison du verbe à l'imparfait. Ce n'est plus le cas. L'Arabie Saoudite, la Russie, le Koweït ainsi que l'Irak ont augmenté leur production.
Mais Lucas, pourquoi augmenter la production alors que la Chine, qui est le plus grand importateur de pétrole au monde, en achète moins, par exemple?
Eh bien, notamment car les sanctions américaines contre l'Iran menaçaient de faire baisser l'offre mondiale et de faire grimper trop les prix. Mais elles ont finalement été moins sévères que prévu. Washington a accordé des dérogations à 8 pays pour continuer à importer leur pétrole en Iran. Mais la Russie et l'Arabie Saoudite, qui sont 2 des 3 plus grands producteurs de cet or noir, ont amendé en juin dernier l'accord de limitation de la production. En faisant cela, Moscou et Riyad ont voulu compenser la baisse des exportations pétrolières iraniennes qui était annoncée. Il y a donc tout simplement plus d'offres que de demandes. Voilà pourquoi le prix du baril baisse significativement ce mois-ci. Cette réunion à Abu Dhabi aura donc servi à préparer le terrain avant une assemblée plénière de l'OPEP prévue en décembre à Vienne.
Merci à vous, Lucas Caltritti. Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du Globe. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour Mathieu. La Norvège a annoncé vendredi le gel de toutes les licences d'exportation de matériel militaire vers l'Arabie Saoudite, sans mentionner explicitement le meurtre du journaliste Khashoggi. Oslo justifie cette décision par, je cite, « les récents développements en Arabie Saoudite et la guerre au Yémen ». Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé hier avoir franchi le cap de 200 décès dans une nouvelle épidémie d'Ebola. Ces cas sont surtout signalés dans l'est de la République démocratique du Congo, où l'insécurité et les activités des groupes armés rendent difficiles les efforts de lutte contre la maladie. Le Sri Lanka s'enfonce dans la crise depuis que le président Sirisena a décidé de limoger le Premier ministre et de le remplacer par l'ancien président Rajapaksa. Et pour barrer la route à toute contestation, le chef de l'État a dissous vendredi le Parlement. Éric Meyer, bonjour. Vous êtes spécialiste du Sri Lanka. Comment comprendre les ressorts de cette crise ?
En fait, il y a plusieurs lectures possibles. Il faut remonter aux élections de 2015 qui ont mis au pouvoir Sirisena, qui a été élu un peu par surprise, qui était issu du parti de Rajapaksa. Donc, Sirisena avait été élu avec l'appui de Vikramasinghe, qui était le chef de l'autre parti. Donc, il y a eu une sorte d'alliance. Et cette alliance n'a pas tenu. Le président a été de plus en plus soumis à des pressions d'un côté comme de l'autre, et finalement a décidé de limoger le Premier ministre. Il y a une autre lecture possible qui consiste à parler géopolitique et à penser aux pressions possibles de l'Inde et de la Chine. Le Premier ministre qui a été limogé était plus proche de l'Inde, mais aussi des États-Unis et des pays occidentaux. Et l'ancien président Rajapaksa, qui a été nommé Premier ministre, est très connu pour être proche de la Chine.
Des questions économiques seraient aussi à l'origine de cette crise.
Certainement. Le Premier ministre, qui était très lié au milieu d'affaires de Colombo, était en conflit avec le président et avec surtout l'ancienne équipe gouvernementale sur des enjeux au niveau des grandes infrastructures comme le port de Colombo. Il est probable aussi qu'il y a une corruption tout à fait considérable d'un côté comme de l'autre d'ailleurs.
L'ancien homme fort du pays, Rajapaksa, l'homme qui a mis fin à 4 décennies de guerre civile, est nommé pour remplacer le Premier ministre limogé. Et cela suscite un climat de contestation. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte de voir la crise politique actuelle réveiller les vieux démons ?
C'est un risque évident parce que dans l'entourage de Rajapaksa, il y a un certain nombre d'ultranationalistes qui restent dans une position très triomphaliste par rapport à la minorité tamoule. Et surtout, dans ces milieux de bouddhistes militants, il y a un sentiment d'hostilité vis-à-vis de la minorité musulmane qui s'est manifesté au cours des 4 ou 5 dernières années. Donc les minorités peuvent craindre, disons, avec un retour de Rajapaksa, d'être victimes d'un certain nombre d'actes de violence. Dans cette affaire, il faut aussi tenir compte de la société civile qui était à l'origine de l'arrivée au pouvoir de Sirisena et qui se sent non seulement déçue, mais qui se sent trahie, notamment au niveau de la jeunesse et aussi au niveau du JVP, l'ancien parti qui a été considéré comme ultranationaliste, mais qui a beaucoup évolué depuis. Il y a quand même une force là qui peut jouer un rôle d'apaisement, paradoxalement, dans le cadre du conflit actuel.
Éric Meyer, professeur émérite à l'INALCO. Soupçonné de malversation financière et surtout d'avoir commandité une tentative d'enlèvement contre un ancien député de l'opposition, l'ex-président équatorien Rafael Correa refuse de rentrer dans son pays pour y être jugé. Correa est actuellement en Belgique, pays d'origine de sa femme. Cette semaine, des versions contradictoires ont circulé dans les médias quant à une possible demande d'asile dans ce pays. Les explications de notre correspondant en Équateur, Eric Sanson.
Plus les heures passent et plus le retour en Équateur de Rafael Correa se complique. Résident en Belgique depuis la fin de son dernier mandat présidentiel, Correa se voit reprocher d'avoir commandité une tentative d'enlèvement contre un opposant politique, un délit passible de 5 à 7 ans de prison. Il doit également être jugé pour malversation des fonds usés lors de cette tentative d'enlèvement. Mercredi, la juge Daniela Camacho a ordonné que tous les comptes bancaires de l'ancien président soient gelés. Avec Correa, doivent être jugés Pablo Romero, ex-responsable de l'Agence nationale de renseignement, et 2 policiers ayant participé à la tentative d'enlèvement. Rafael Correa affirme être innocent. Il se dit victime de persécutions politiques de la part du président actuel, Lénine Moreno, pourtant son ancien vice-président et allié. Considérant que la justice équatorienne est politisée, il refuse de rentrer en Équateur. Cela devrait bloquer toute possibilité de procès, car la loi équatorienne interdit tout jugement en absence pour ce délit. Correa pourrait donc simplement attendre, mais il ne pourrait plus rentrer en Équateur dans les 7 ou 8 prochaines années, interdisant de fait son retour immédiat en politique. Jeudi, après que l'AFP a indiqué que l'ancien président avait déposé en juin dernier une demande d'asile auprès du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides à Bruxelles, Rafael Correa a démenti la nouvelle auprès de RFI et de l'agence EFE.
Elle ne pardonnera jamais à Donald Trump et qualifie de mesquin et d'insensé le fait d'avoir mis en doute la citoyenneté de son époux. C'est entre autres ce qu'écrit Michelle Obama dans un livre à paraître mardi aux États-Unis. À dimanche prochain.
À dimanche prochain. Merci à vous, Nabil Hamel. La météo de l'après-midi, des pluies sur le nord et en PACA, ailleurs un temps plutôt sec et de belles apparitions du soleil. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux, à la technique Jean-Frédérix.